Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.
Nous sommes aujourd'hui à Saint-Laurent-d'Olt, où nous avons rencontré M. le maire, Alain Vioulac, qui nous présente sa commune. Didier Aussibal, chargé de mission architecture et urbanisme, nous parlera du sentier d'interprétation. Fabien Donas, chargé de mission paysage et aménagement, nous présentera la zone d'activité agricole. Deux projets réalisés sur la commune de Saint-Laurent-d'Olt, en collaboration avec le parc naturel régional des Grands Causses. Bonjour Monsieur Vioulac. Donc bonjour. Vous êtes maire de Saint-Laurent-d'Olt. Et donc pour cette émission en collaboration avec le parc, je vais vous demander de présenter votre commune en quelques mots.
Bah, eh bien, bonjour à tous. Et la commune de Saint-Laurent-d'Olt, c'est 650 habitants, population municipale. Bon, on va dire 730 en population compte double. Donc Saint-Laurent-d'Olt, c'est au nord-est du département, au-dessus de Sévérac-le-Château. Et c'est limitrophe avec la Lozère. Donc voilà, nous avons sur Saint-Laurent, c'est la ruralité qui prime. Nous sommes en zone rurale, entièrement rurale, mais nous avons de l'activité qui est proposée, puisque nous avons des structures telles que l'IME, la maison de retraite, qui nous propose un bassin d'emploi assez important, et l'artisanat est bien présent sur Saint-Laurent-d'Olt. Également, je voudrais dire que, comme j'ai parlé de ruralité en tout début, c'est le milieu agricole. Le milieu agricole Saint-Laurent, effectivement, nous ne sommes pas des communes où c'est qu'il y a le plus grand nombre d'agriculteurs, parce que je crois que c'est une vingtaine d'agriculteurs qui sont installés sur la commune. Mais là, on arrive à proposer différentes sortes d'agriculture. Nous avons les bovins, les éleveurs bovins viande, les bovins également. Nous avons aussi des agriculteurs avec les ovins. Alors, ovins viande, on a également des ovins laits qui fournissent pour Roquefort. Et après, nous avons une diversité de production, et ce qui nous arrive, on arrive à proposer des circuits courts avec cette agriculture-là. Je pense aux volailles fermières, au fromage de chèvre, au maraîchage, puisque depuis quelques années maintenant, nous avons du maraîchage bio sur la commune, des poules pondeuses. Donc, on arrive à fournir des œufs de bio sur la commune et bien au-delà. Et voilà, ça reste un satisficit, cette agriculture. Nous aimons cette agriculture, puisque c'est une agriculture non intensive, et c'est ce qui est recherché à Saint-Laurent-d'Olt et par les agriculteurs de Saint-Laurent, j'en suis convaincu. Au niveau service, c'est vrai, et je le reconnais, au niveau du petit commerce, il souffre, parce qu'on est à proximité de bourg-centre, où il y a des commerces un peu plus importants, mais je crois que là aussi, il faut les faire vivre, ce petit commerce. L'an dernier, nous avons eu la chance de pouvoir réouvrir la boulangerie, ça n'a pas été facile. Et puis également un café-restaurant qui a ouvert l'an dernier. Alors le restaurant L'Établi, et le restaurant L'Établi nous propose pas mal d'animations durant toute l'année. Et voilà, je ne vais pas dire hebdomadaire, mais mensuel, on arrive à avoir. Et c'est ce lieu convivial qui est recherché. Et nous avons aussi deux autres cafés sur le village.
Et en termes scolaires, quels sont les effectifs ?
Alors, en termes scolaires, les effectifs, ben, c'est 60 élèves sur Saint-Laurent-d'Olt en primaire, trois classes. Donc voilà, nous avons été plus bas en termes d'effectifs, puisque nous avions chuté il y a quelques années à 45 élèves. Nous sommes remontés en avec les enfants de 2000, le baby boom, nous sommes remontés à 70 et là on est dans les 60 élèves.
Ça signifie qu'il y a eu des nouveaux arrivants sur la commune ou...
Alors effectivement, on a eu des nouveaux arrivants et ces nouveaux arrivants sont venus à Saint-Laurent pour différentes raisons. C'est que la municipalité a voulu accueillir des nouveaux arrivants et en créant des lotissements. C'est vrai aussi qu'il y a eu dans le bâti ancien, des ventes qui ont été réalisées et qui a permis de faire venir des nouveaux couples. Donc voilà, oui, c'est cet effet-là qu'il y a eu des nouveaux arrivants, et même il y a eu des logements sociaux style HLM qui se sont créés sur Saint-Laurent, et ça nous apporte cet accueil en habitants.
Est-ce que la commune gère elle-même un parc de logements ou c'est uniquement dans le privé ?
Alors, voilà, en termes de logements, la commune a des logements. La commune dispose d'une dizaine de logements. Et ensuite, il y a l'office HLM qui a 6 logements. Il y a des privés qui ont des logements aussi. Par contre, voilà, au niveau de tous ces logements, pour l'accueil, c'est important puisque, en fait, voilà, c'est pas tout le monde qui va rester à Saint-Laurent-d'Olt. Il y en a qui sont venus pour travailler 2 ou 3 ans, ils repartent. Mais sur le nombre de ces logements, ça propose des disponibilités. Et quelqu'un, si on a des terrains à bâtir, on va pouvoir installer 1 voire 2 ménages. Et c'est là qu'est important cet accueil.
Parlons maintenant des activités qui ont été menées en collaboration avec le parc. La commune de Saint-Laurent-d'Olt est, donc, vous l'avez dit, un petit peu aux confins du territoire et du département et du parc, par conséquent. Et donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été réalisées sur la commune. On peut parler, pour commencer, de la zone d'activité agricole. Comment est née l'idée de créer cette zone d'activité ?
Voilà. Donc, je voudrais d'abord dire qu'avec le parc, c'est notre territoire. Il me semble qu'il y a 97 communes qui sont dans le territoire parc. Donc, en tant que maire, j'adhère totalement à l'idée que nous sommes dans le parc régional des Grands Causses et qu'on doit travailler en collaboration avec le parc régional des Grands Causses. Ensuite, voilà, comment est venue cette idée de zone d'activité agricole ? Eh bien, c'est simple et peut-être compliqué à la fois, parce que simple, puisque c'était une demande de l'agriculteur qui était sur une partie de notre réserve foncière, qui voulait nous acheter ce terrain pour y construire des bâtiments agricoles. Alors là, c'est posé la question de suite en conseil municipal de dire, est-ce qu'on vend toute cette partie à cet agriculteur ou est-ce qu'on prévoit de le morceler et d'en faire une zone d'activité agricole, sachant que on est contraint dans notre commune pour arriver à trouver des espaces pour pouvoir installer des bâtiments agricoles, puisque bon, déjà il y a les distances par rapport aux villageois qu'il faut respecter. On est dans une zone de PPRI, risque inondation, et là on ne peut pas installer des bâtiments partout. Donc voilà, ça a été notre souhait de dire on ne peut pas le lui vendre sur la totalité, puisque ce terrain faisait un peu plus de 4 hectares. On a dit il faudrait le morceler. Alors c'est comme ça qu'est venue l'idée de la zone d'activité agricole. Et nous avons travaillé en collaboration avec le parc, également la DDT, la Chambre d'agriculture, et nous avons avancé dans ce sens. Et donc aujourd'hui, on a une zone d'activité agricole, on a fait, puisque bon, c'est sûr que les lots, il faut qu'ils soient un petit peu importants, puisque sur des bâtiments agricoles, il y a un certain métré à respecter. Donc c'est trois lots. Un bâtiment pour les bovins va être édifié. Le deuxième, et le permis de construire est déjà là, c'est un bûcheron qui va s'y installer. Et le troisième, en fait, c'est un éleveur de poules pondeuses et maraîcher en GAEC qui vont s'y installer également. Donc aujourd'hui, on a les 3 lots qui sont vendus. Voilà, notre souhait, c'est de pouvoir agrandir cette zone d'activité agricole et y proposer d'autres lots pour développer cette agriculture sur celle de Rondolt.
Parlons maintenant du sentier d'interprétation. Comment est venue l'idée de créer ce sentier d'interprétation ?
Alors, voilà, là aussi, il y a quelques années, quand on est arrivé aux affaires, on s'est aperçu que les personnes, les touristes, les visiteurs, ceux qui viennent d'à côté, on parle de touristes, mais il y a les touristes aussi le week-end qui viennent de Rodez ou de Millau découvrir notre village, hein, il n'y a pas que les gens du nord ou les gens de l'ouest ou de l'est. Donc, on s'est rendu compte qu'ils rentraient dans le village, mais voilà, ils voyaient notre patrimoine, ils voyaient toutes nos valeurs que nous avons sur notre village, mais ils ne rentraient pas plus. Alors, on a dit on va faire un sentier de découverte. On l'a jalonné et après, bon, j'avais bien vu hein, que sur d'autres communes, comme par exemple à Combray ou ailleurs, on avait des centres d'interprétation. Et voilà, on a pris la tâche du Parc régional des Grands Causses pour voir ce qu'on pourrait monter sur notre village en termes d'interprétation sur notre sentier. Donc, on a eu les gens du parc qui ont été formidables. Hein. Je pense à M. Ossibal, qui a fait un travail remarquable avec ses collaborateurs. Donc, et voilà. Et aujourd'hui, on en a le résultat et on en est très satisfait.
Bonjour Didier Ossibal. Vous êtes chargé de mission architecture et urbanisme au Parc naturel régional des Grands Causses. Le parc est intervenu sur la commune de Saint-Laurent-d'Olt.
Alors moi, c'est vrai que je ne sais plus sur l'interprétation du patrimoine, mais on est intervenu sur des sujets comme des zones d'activité, des lotissements, et c'est plutôt Fabien qui est rentré plutôt dans la partie aménagement, bien qu'on y travaille ensemble sur certaines parties. Et là, moi, c'est vrai que sur Saint-Laurent, ça a été plus sur des panneaux d'interprétation, qui était une volonté communale, portée par une élue qui avait déjà un petit peu envisagé un circuit. Et sur cette base de proposition de circuit, on a essayé de... Et des thèmes qu'ils avaient déjà un peu fait émerger, avec des érudits locaux, M. Jean-Marie Biot, par exemple, qu'on a retrouvé à la fin, mais qui, au début, était un petit peu, faisait partie des initiateurs. Donc on a fait des propositions de thèmes très proches de ce qui était proposé par la commune et voir un petit peu comment développer, faire attention de ne pas être redondant par rapport à d'autres panneaux dans d'autres secteurs pour être plutôt complémentaire. Et donc sur des thématiques qui vont de l'architecture mais aussi des voies de communication sur la féodalité. Alors c'est assez ouvert. Alors là, il y a eu 8 panneaux proprement dit sur un circuit à l'intérieur du village de Saint-Laurent, et puis un 9e panneau sur Notre-Dame de l'Estaple, qui est dans un petit hameau en rive droite du Lot, qui est commune de Saint-Laurent, mais de l'autre côté du Lot, qui participait de ce franchissement, parce que Saint-Laurent, c'était... un passage obligé fort entre le Gévaudan et le Rouergue. D'ailleurs, cette thématique du passage et des ponts est évoquée dans un panneau.
Les panneaux, est-ce que ce sont les mêmes que ceux auxquels on est habitué sur le territoire du parc ?
C'est la même forme, le même graphisme. Par contre, les thèmes sont adaptés au lieu et aussi aux velléités, aux intentions de la commune. Et c'est là où nous, on est un petit peu, on sert de médiateur par rapport à aux panneaux qui préexistent déjà, ou à des thématiques qui sont développées ailleurs, voir comment soit être complémentaire, soit venir raconter quelque chose de proche, mais de différent, par exemple sur les ponts. On a d'autres panneaux sur les ponts, mais là, c'est un pont du 19e, et bon, il y a une petite énigme, apparemment, les piles ont des proues inversées, qui ne sont pas dans le courant, mais qui sont en aval, ce qui est bizarre. D'ailleurs, le panneau pose la question, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est à la fois une erreur et un peu intentionnelle, parce qu'on s'aperçoit que les proues saillies à l'angle créent des remous beaucoup plus court sur la pile. Et donc, par contre, une proue arrondie crée des remous beaucoup plus à l'écart. Mais alors, est-ce que c'était le début d'une prise de conscience de ces phénomènes? Parce que les proues en saillie, dans le courant, avaient été jusque-là la forme générique des ponts, enfin, des piles de ponts.
Peut-être qu'il faut préciser pour nos auditeurs Saint-Laurent-d'Olt, donc c'est dans la vallée du Lot. Olt, c'est le nom occitan pour le Lot. Ouais. Donc forcément, c'est un village qui est très marqué par la présence de la rivière. On parle de ce pont, il y a peut-être un souci de navigabilité derrière cette architecture.
Alors, il y avait le Lot n'était pas navigable jusque-là, il était navigable jusqu'à Entrailles. Par contre, l'influence de cette navigabilité du Lot jusqu'à Entrailles, qui est, je ne sais plus combien de kilomètres en aval, mais on sent qu'il y a des remontées de l'influence le long du Lot, par exemple sur les charpentiers de marine qui ont influencé les charpentiers de bâtiments, et qui ont ce qu'on appelle les charpentes à carène de bateau ou à la filibère de l'or. Cette technique remonte jusqu'à Mende. On trouve pas mal de maisons du 18e, 19e qui utilisent, de maisons, mais même de granges qui utilisent des charpentes dites à filibère de l'or. Et c'est appliqué les techniques du charpentier de marine, les techniques du charpentier bâtiment. Alors, on évoque la navigabilité du Lot, il y a un panneau qui en parle d'ailleurs. On évoque la ligne de chemin de fer Béziers-Neussade, dont on voit un des viaducs, parce qu'il y en a pas mal sur le secteur. Un petit peu l'histoire de cet aménagement structurant pour le sud du Massif central. Et puis, le château, bien sûr, qui est très ancien, on voit des traces déjà au XIe siècle, historiquement, des écrits, donc qui a évolué, mais il y a encore de beaux restes, hein, donc on explique un petit peu l'histoire de ce château. Les calades aussi, parce qu'il y a une très très belle calade qui, la rue, on appelle ça, là, je crois que c'est la rue obscure, qui est sur un revers un peu nord de la proue du village, là, et qui est très à l'ombre, et qui était certainement une des anciennes voies qui passaient dans le village. Parce qu'aujourd'hui, on contourne le village, où on y arrive sur la colonne vertébrale, par le sud. Et je sais pas, alors qu'autrefois, on venait traverser cette proue de l'amont à l'aval, ou l'aval vers l'amont. Et donc, de part et d'autre, il y avait des calades, donc des chemins pavés avec des pierres debout. Et donc on décrit le système constructif de la calade. On fait une allusion aussi à Boudou, l'auteur occitan qui a été instituteur à Saint-Laurent. Voilà. Il y a un panneau sur l'architecture à colombage, parce qu'il y a des maisons encore. Hein. Il y a une très belle maison à colombage. Il y a aussi des hôtels particuliers qui témoignent à un moment donné de l'émergence d'une classe sociale bourgeoise, des hôtels particuliers 18e, 19e. On voit qu'il y a eu l'émergence d'une classe sociale aisée. Alors ça, c'est sur des documents que nous avons donné la commune, puis des recherches qu'on a fait en parallèle, mais pratiquement tout a été fourni par la commune, ou les personnes qui avaient participé à la programmation de ce sentier de découverte.
Ce sentier de découverte, il se développe à la fois dans le village de Saint-Laurent et sur ses abords,
ou... Voilà. Alors, il y a 9 panneaux, il y en a 8 qui sont sur le village de Saint-Laurent, donc pratiquement une boucle qui va de l'entrée sud du village jusqu'à... qui passe sur château, qui descend au pont qui est à l'est, et qui remonte vers l'entrée sud. Donc on fait une boucle à la fois montante dans un sens, jusqu'au château, et on redescend sur la rivière, et on remonte sur le versant est du village, pour bien voir toute l'articulation, l'urbanisation de ce village en ligne de crête et en proue sur le méandre du Lot.
Quel est le rôle précis, particulier, que va jouer le parc dans la réalisation de ce sentier d'interprétation ?
Les thèmes sont très souvent donnés par la collectivité locale, alors en l'occurrence la commune ou des associations qui travaillent avec la commune. Nous, on s'est surtout vérifié que ces thématiques-là sont bien sûr intéressantes, mais elles sont très souvent, et voir un petit peu comment mettre tout ça dans une sorte de réseau général pour que les thématiques soient complémentaires. Et donc nous, après de cette matière-là, les données qu'on nous donne, on fait des recherches complémentaires, on développe des thèmes qui peut-être paraissaient mineurs, mais qui, par rapport à ce qui avait été raconté ailleurs, pourraient être là plus intéressants à développer. Et donc là, on commence à proposer des formulations de textes et des illustrations. Alors, il y a une première phase de validation, pas à la virgule près, mais de la thématique et des illustrations. Et après cette validation, on fait une rédaction définitive. Alors, elle peut être, là, en l'occurrence, c'est moi qui les ai rédigées, mais ça peut être d'autres intervenants. Bon, là, ça touchait beaucoup à des constructions, donc c'est moi qui les ai rédigées, mais sur d'autres villages, c'est Fabien a rédigé, Laure Jacob en a rédigé. Il y a un bon attiré qui est validé par la commune, et là, on donne ça à un bureau de graphistes qui font le graphisme du panneau, qui après fabrique les panneaux.
Bonjour Fabien Donas, vous êtes chargé de mission paysage et aménagement au Parc naturel régional des Grands Causses. À ce titre, vous êtes intervenu sur la commune de Saint-Laurent-d'Olt pour l'aménagement d'une zone d'activité agricole.
Tout à fait, oui. C'est la première en la matière, hein, parce qu'on parle souvent plutôt de zone d'activité artisanale ou économique. Donc là, c'est une première, je ne sais pas si c'est une première nationale, mais enfin, en tous les cas, sur le territoire du parc, c'est la première. Et le maire nous a sollicité pour l'accompagner dans ce projet. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas intervenu le parc dès le départ. La commune avait déjà bien engagé le projet. Mais pour vous resituer un peu l'action... La commune de Saint-Laurent est traversée par la vallée du Lot avec quand même un relief assez chaotique puisque d'un côté on a l'Aubrac et de l'autre côté les contreforts des causses du Larzac. Donc avec peu il y a une petite plaine alluviale mais le reste de la commune est quand même assez mouvementé. Et le village est construit sur un éperon rocheux dans un méandre du Lot. Donc une configuration assez spécifique et qui pose des problèmes pour l'extension urbaine du village. Et en fait, donc le village peut s'étendre que sur le sud. Et il y a un agriculteur qui avait projet d'agrandir son exploitation et de créer un nouveau bâtiment pour augmenter son cheptel. Vous savez qu'il y a des zones de protection et autour de ces bâtiments d'élevage. Et ça aurait pu compromettre le développement urbain de la commune. Donc, au regard de ce projet, la commune a vu l'enjeu par rapport à un urbanisme potentiel et a souhaité que l'agriculteur déplace son bâtiment. Alors, le foncier, c'est un problème un peu partout. Donc, il y avait un problème de l'agriculteur, je pense, était... Donc, nous, à ce moment-là, le parc, on n'est pas intervenu, mais... l'agriculteur, je pense, était d'accord pour déplacer son bâtiment, mais il fallait lui trouver une parcelle. Donc la commune s'est mise à chercher un autre terrain, plus en recul du village. Donc ils ont acquéri une parcelle qui doit faire à peu près 4 hectares pour accueillir ce nouveau bâtiment, donc à environ 1 km du village, et qui permettait comme ça de pas bloquer l'urbanisation future du village de Saint-Laurent, parce que nous sommes en loi montagne et les agglomérations, enfin toutes les nouvelles constructions doivent se construire dans la suite de l'agglomération. Plus avec aussi maintenant la nouvelle loi liée à la loi Grenelle de l'environnement, où il faut limiter l'étalement urbain, les communes se doivent de concentrer les nouvelles zones d'habitat. Alors, bon, déjà d'avoir trouvé une autre parcelle, c'était déjà bien. Et puis, il y avait d'autres demandes, finalement. Il y a une CUMA qui cherchait aussi un terrain pour faire un bâtiment, pour entreposer le matériel. Et puis, un maraîcher qui voulait se diversifier, qui a des poules pondeuses bio, mais qui sont dans un bâtiment, je crois, obsolète, et qui voulait améliorer son exploitation. Donc finalement, il y avait trois demandes avec une grande parcelle, et d'où est née cette idée de zone d'activité artisanale.
Alors comment est-ce qu'on pilote un projet comme celui-ci ?
Alors bon, jusque-là, comme je vous le disais, le parc, on n'est pas intervenu. Le maire nous a appelé après pour finalement construire cette zone d'activité. Mais là, nous, on s'entoure. Donc au niveau du parc, on a des missions de conseil et d'assistance auprès des collectivités. On essaye d'associer un maximum de personnes autour de la table. Hein, donc bien sûr, les personnes concernées, là, les agriculteurs et la CUMA, mais aussi la DDT. Donc c'est l'ancienne DDE2, hein, c'est la direction départementale des territoires, par rapport à tout ce qui est loi liée à l'urbanisme. On avait associé la Chambre d'agriculture aussi, et je crois que c'est ici, je crois qu'il y avait la DASEA aussi. Et puis, comme on était en zone Natura 2000, c'est la DASEA qui a fait une étude des incidences pour savoir si ça posait problème par rapport au projet.
Donc une fois qu'on a réuni tous les... toutes les personnes concernées, tous les intervenants potentiels, comment les choses se mettent en place ensuite ?
Alors, on essaye de bien comprendre tous les besoins de chaque personne. On fait un diagnostic du site pour bien mesurer les enjeux. Et là où le souhait de la commune, c'était pas uniquement de diviser la parcelle en trois, mais vraiment d'apporter une plus-value à ce projet, une plus-value environnementale. Donc c'est là, en faisant cette analyse du site, où que je pense le parc a pu apporter un plus en proposant un aménagement adapté donc aux demandes des futurs lotisseurs, mais surtout par rapport à un environnement bien spécifique. Donc dans cette zone, la parcelle est légèrement pentue, donc il y a forcément, en implantant des bâtiments assez importants, donc toujours obligé de faire des terrassements, donc ça pose toujours des problèmes de tenue des sols. Il y a aussi des problèmes liés à l'imperméabilisation des sols, puisqu'on fait des grandes plateformes, des bâtiments aussi qui sont étanches, donc il y a un problème de régulation des eaux pluviales. Et puis on était, donc même si cette zone était un peu à l'écart du village, il y a quand même quelques petits hameaux qui gravitaient autour. Bon, par rapport au cadre paysager, on avait voulu essayer de limiter l'impact visuel. Donc par chance, cette parcelle se situe dans une zone très bocagère, avec encore des belles haies de chênes. Donc finalement, en observant le terrain, on trouve les réponses assez facilement, enfin, dans ce cas de figure. Et nous, le parc, on a proposé de replanter, de diviser la grande parcelle en trois parties. Avec, ça tombait bien aussi par rapport un peu au type de projet, parce que la personne qui voulait faire ces poules bio voulait juste implanter des petits bâtiments presque hors sol, hein, sur pilotis. Donc on lui a réservé la partie de la parcelle la plus pentue, et on a gardé la partie la plus plane pour le bâtiment lié à l'exploitation des bovins, qui nécessitait un bâtiment assez important. Donc ça, c'est comme ça qu'on a divisé la parcelle. Et après, comme on était donc dans une unité paysagère très bocagère, on a voulu renforcer la trame bocagère en replantant des haies pour limiter ces parcelles. Donc ça, c'est la commune aussi qui s'en est chargée, qui a préféré prendre les devants plutôt que de demander aux lotisseurs de planter les haies. Elle a planté les haies. Donc le parc, on est venu aussi, on a financé une partie du projet, et puis on a financé aussi le paillage biodégradable. Donc c'est peut-être un petit peu technique, mais avant on plantait les haies sur des paillages plastiques, on s'est aperçu que ça posait des problèmes, que bon, bien sûr ils ne se dégradaient pas, qu'ensuite ils restaient dans la nature. On a des très bons résultats maintenant en changeant ce paillage plastique par un paillage biodégradable. Donc là en l'occurrence, qui était composé d'écorce de bois, enfin il peut être fait de paille, de copeaux. Et quand il se décompose, en plus, il amène de la matière organique au sol, donc c'est très très bénéfique. Et puis, on n'a pas de résidus de plastique ensuite. la parcelle est en limite d'une route départementale qui est bordée d'un alignement de chênes aussi assez monumental. Donc pour conserver ce patrimoine et puis l'enrichir, eh bien, avec la mairie aussi, on a décidé de planter, enfin de poursuivre cet alignement de chênes le long de la route départementale. Donc ça, c'était vraiment pour le cadre paysager. Ensuite, par rapport à l'eau, plutôt que de rejeter directement donc l'eau collectée sur les plateformes et sur les bâtiments, le rejeter directement dans le milieu naturel, on a créé un bassin de décantation et de rétention. Alors, plutôt qu'il soit brut de décoffrage, eh ben, la mairie aussi a souhaité à ce qu'on puisse intégrer, que ce bassin puisse aussi servir pour la faune sauvage. Donc du coup, il a un profil un peu plus particulier, des pentes un peu plus douces, il est végétalisé et il peut servir, on parle maintenant de corridor et de trame verte et bleue, donc le bassin est intégré dans les haies et il pourra servir à la faune. Et il y avait même un projet par rapport à cette rétention d'eau, puisque la personne qui fait le poulailler à son maraîchage, à sa zone de maraîchage juste en dessous, voulait peut-être se servir de l'eau pour irriguer le maraîchage. Donc vraiment un projet très bien réfléchi et avec des suites possibles très favorables.
J'imagine que ça n'a pas été simple pour la commune de trouver justement la parcelle adaptée pour
tout
ce projet.
Comme je vous le disais, nous on est arrivé, la commune avait déjà la parcelle, mais ça a été vraiment une chance de trouver. Alors je ne sais pas comment ils ont négocié, parce que le foncier c'est vraiment un point délicat sur nos communes. Mais cet emplacement est vraiment pratiquement idéal. Hein. Pas très loin du village, en zone centrale au niveau de la commune, avec une pente relativement faible, dans un écrin quand même bocager, donc tout pour faire un bon projet.
Est-ce que cette zone d'activité agricole, elle a valeur d'exemple pour d'autres communes qui voudraient mener le même type de projet ?
Je pense, ça pourrait faire des petits, comme on dit, parce qu'on voit beaucoup de villages qui sont cernés par des bâtiments agricoles. Et bon, c'est normal, c'est l'évolution. Avant, les fermes étaient dans les villages. Bon, maintenant, avec les engins, avec les normes, et puis les exploitations de plus en plus grandes, on est obligé de construire à l'extérieur des villages, hein, ces nouveaux bâtiments. Mais souvent, ils ceinturent les agglomérations. Ils peuvent poser des problèmes pour le développement des villages. Donc, les regrouper, peut-être pas systématiquement, mais regrouper... quelques exploitations, bon, quand c'est possible aussi par rapport aux normes sanitaires, hein, à des endroits bien précis, ou faire, quand il y a un document d'urbanisme, des zones privilégiées pour l'agriculture et peut-être une autre zone plus pour le développement du village, ça permet vraiment de rationaliser l'espace et puis de bien réfléchir à l'évolution de la commune.
Très bien, merci beaucoup Fabien Donas.
Avec plaisir.
C'était Une autre vie s'invente ici, à Saint-Laurent-d'Olt. À très bientôt pour la découverte d'un autre village du parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.